Radio Okapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, une accalmie relative a été observée ce vendredi sous les lignes de front entre les M23 et les FARDC. Cependant, la société civile émet des craintes par rapport à la situation des Kibumba. L'inspection générale des finances et les organisations de la société civile recommandent aux Congolais de se mobiliser pour lutter contre la corruption. Déclaration faite ce vendredi à Kinshasa lors d'une journée de sensibilisation sous le thème « Zéro corruption, 100% développement, la corruption, un fléau que nous devons combattre ». L'invité de ce journal est le directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique OSEP Équateur. Taylor Lompo-Kompela fait l'état des lieux de la corruption dans cette province. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nord Kivu, une accalmie relative est observée ce vendredi sur les lignes de front entre les M23 et les FARDC. C'est notamment dans la partie Buito, sur l'axe Kisegourou, mais aussi vers Kibumba, à la limite entre les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Cependant, la société civile émet des craintes par rapport à la situation des Kibumba. Selon nos sources, les rebelles du M23 en position dans la zone auraient demandé à la population de quitter leur village, déjà occupé notamment à Karambi et Rugari, en groupement à Rugari pour se réfugier un peu plus loin vers les collines de Kanombe. Ces rebelles auraient dit à la population qu'ils prépareraient une opération de ratissage dans la région, rapportent nos sources. La société civile dit craindre une attaque imminente du M23 contre les positions des FARDC dans cette partie. D'autres sources ajoutent que ces rebelles auraient également reçu des renforts ce vendredi matin sur l'axe Tongo Kalengera. En Ituri, pendant ce temps, les groupes armés qui ont participé au dialogue de Nairobi 3, dont les Codeco, le FPIC et le FRPI, réaffirment leurs engagements de poursuivre avec le processus de paix pour mettre définitivement fin au conflit armé dans cette province. Ils l'ont dit hier jeudi à Bounia au cours d'un échange avec le gouverneur de province. Tous souhaitent l'accélération du processus de DRC pour la pacification totale de cette province. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Dans leur déclaration, les représentants des groupes armés de l'Ituri, signataires des actes d'engagement unilatéraux, restent engagés aux démarches de Nairobi. Pour les mouvements armés Codeco et RDPC, ces leaders se disent déterminés à soutenir les efforts de paix pour permettre aux milliers de déplacés dans les territoires de Djougou de retourner dans leur village. Bassa Zokpa, porte-parole de la Codeco.
La population doit vaquer librement à leurs occupations, nous sommes engagés pour la paix.
Pour la FPIC, c'est un bon moment de construire l'Ituri, son porte-parole.
La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité. C'est le bon moment de construire notre pays.
Le processus de D2RCS doit être mis en place rapidement, insiste la FRPI. Son porte-parole, Mounobi.
Le gouvernement vraiment d'accélérer tous les programmes. Le PDDCS, d'ailleurs la FRPI, avait déjà lancé le désarmement à Karachi.
Ces leaders ont rejoint leur bastion ce vendredi matin pour relayer les conclusions de Nairobi 3. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Insécurité dans les territoires de Kwamout en province du Maïndombé. Au moins 6 morts et 1 blessé ont été enregistrés hier jeudi après une attaque des assaillants armés contre le village Nkana à quelques kilomètres de la commune urbano-rurale de Maluku sur le fleuve Congo. D'après le député national Guy Moussomo, 3 civils et 3 militaires ont été tués et plusieurs maisons incendiées. L'élu de Kwamout plaide pour des dispositions adéquates afin de mettre fin à cette insécurité. Il a été joint par Irène Boma.
Vers 5h du matin, il y a quelques assaillants qui ont attaqué Nkana par le port des marins et le bilan provisoire. 3 civils, 3 soldats et plus un capitaine blessé. 6 morts, un blessé. Je trouve que la gestion de ce côté-là est assez catastrophique. Alors il faut chercher des renforts ailleurs. Alors il faudrait que les militaires puissent très bien s'organiser pour que ce genre de choses ne puissent plus arriver. Oui, mais c'est à quelques kilomètres de Kinshasa, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos autorités qui s'occupent de la sécurité puissent voir clair. C'est comme si elles prennent la situation à la légère. Vous allez voir que du côté de Kenge, ces gens-là sont allés tuer. Ici, non loin de Doumi, il y a eu des morts. et on ne dit absolument rien. Mais le problème qui se passe à Kwamoto, à la porte de Kinshasa, c'est comme ici, on donne des moyens sur des pincettes. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Nous plaidons auprès des autorités pour qu'ils puissent avoir un regard actif.
À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les appels à la haine tribale et à la violence entre les communautés katangaises et kassaennes distillés dans les réseaux sociaux inquiètent plus d'une personne. Le gouverneur du Haut-Katanga a réuni les membres de ces deux communautés pour leur demander de s'investir afin que la paix et la cohabitation pacifique reviennent. Des détails avec Jean Gandou.
Pour plusieurs personnes, après la tenue de la table ronde entre les communautés du Grand Katanga et celle de l'espace Grand Kassai en avril dernier, une accalmie était observée. Mais depuis peu, la tension monte de nouveau avec des appels à la violence et à la haine tribale entre les membres de ces deux communautés. Et très souvent, ce sont les réseaux sociaux qui sont utilisés pour véhiculer ce genre de messages. La mort du prophète Jérémie Doxamonga à Lubumbashi, et dont les taximens moto seraient les auteurs, a contribué à exacerber la tension. À cela s'ajoutent les récents affrontements entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFEC qui ont causé la mort de deux personnes. Ces deux événements, auxquels se greffent aussi les dernières nominations dans la territoriale, ont aussi dégradé la situation. Toujours en quête de la paix, le gouverneur du Haut-Katanga s'est entretenu ce jeudi avec les représentants de la Fondation Katangaise et celui de la communauté kassaïenne. Jacques Kaboula leur a demandé de sensibiliser leurs membres respectifs pour que les deux communautés vivent en harmonie. Raphaël Moututa, le président de la Fondation Katangaise, a estimé que
la politique ne nous divise pas. Nous sommes un seul peuple et nous sommes des Congolais. Nous avons qu'un seul message, c'est un message de paix.
Chitundu Kayeye de la communauté kassaïenne a promis aussi d'en faire autant auprès de ses membres.
Donner des conseils, c'est notre devoir parce que nous sommes les responsables choisis par nos communautés. C'est nous qui devons tracter les autres et leur donner le bon chemin.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Après son tête-à-tête ce vendredi avec le pape François au Vatican, le docteur Denis Mukwege plaide pour des sanctions contre le Rwanda, accusé d'agresser la RDC à travers un soutien au M23. Parlant du souverain pontife, le prix Nobel de la paix s'est dit touché par un homme de foi, prêt à s'engager à sa manière pour le retour de la paix en RDC. Écoutez plutôt le docteur Denis Mukwege dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Je pense que lorsque le Rwanda agresse les Congos, et tout le monde le reconnaît, aussi bien l'Union européenne que les États-Unis et l'ONU reconnaissent que le Rwanda agresse les Congos et qu'il n'y a rien qui est fait pour arrêter cette agression qui va à l'encontre de la charte. Mais si tout le monde reste dans l'inaction, l'indifférence, en fait, le nombre de morts va continuer, le sang coule et va continuer à couler. Et ça, c'est dramatique. C'est donner un mauvais message aux Congolais, comme si on ne partageait pas la même humanité. L'Union européenne, de l'Italie, c'est de prendre position par rapport à cette agression et pouvoir mettre des sanctions, puisqu'il y a des mesures, des sanctions qui sont prévues pour tout pays qui soutient les groupes rebelles dans cette région.
Journée mondiale de lutte contre la corruption, ce vendredi 9 décembre, l'inspection générale des finances et les organisations de la société civile recommandent aux Congolais de se mobiliser pour lutter contre ce fléau. Déclaration faite ce vendredi à Kinshasa au cours d'une journée de sensibilisation sous le thème « Zéro corruption, 100% développement, la corruption est un fléau que nous devons combattre ». Selon Jean-Claude Katende, président de l'Azado, ces deux structures se sont convenues de mettre sur pied un partenariat pour mobiliser et conscientiser les Congolais afin qu'ils s'approprient ce combat. Des détails avec Grâce Hamzati.
Le professeur Luzolo Bambi a commencé par faire l'état des lieux de la corruption en RDC.
La corruption est dans un état généralisé. L'ampleur est très importante chez nous. La corruption est tout aussi nuisible que la guerre qu'on nous impose à l'Est.
C'est cela le sens de sa recommandation aux Congolais.
Chaque fois qu'un mal nous menace, la solution c'est de nous mobiliser pour combattre ce mal, pour lutter contre le mal.
Le président de l'Observatoire propose une autre thérapie. Prof. Florimond Mouteba.
D'abord, renforcer tous les contrôles. Il n'y a pas que l'IGF, tous les autres, la Cour des comptes, l'IGF, CNRF, ARMP, DGCMP. Et surtout, comme nous sommes dans une année électorale, voter différemment.
Selon le pasteur Eric Senga, l'ECC a mis sur pied trois niveaux de mécanismes dans cette lutte.
L'éducation civique ainsi que la sensibilisation de nos populations. L'ECC met en place des groupes d'action, des gouvernances participatives, les réseautages avec les autres organisations et les niveaux institutionnels.
Une question pas seulement individuelle, mais plutôt collective, ont conclu l'IGF et la société civile.
À l'Équateur, l'Observatoire des surveillances, des corruptions et de l'éthique professionnelle vient de présenter à la presse un tableau sombre de la pénétration de la corruption, ce dans tous les secteurs de la vie nationale. Suivant une enquête réalisée dans la ville de Mbandaka, la population a classifié les secteurs les plus corrompus de la province. Au top des trois premiers secteurs viennent les régies financières, l'éducation et la santé publique. Il y a ensuite la justice, les forces de l'ordre et les structures de gestion des projets de développement. Le directeur provincial de l'OSEP Équateur, Taylor Lompokompela, a annoncé la triste réalité au micro de Paul Richard Malingela.
Il était question d'évaluer les taux de pénétration de la corruption dans les secteurs de la vie nationale. Et sincèrement, je dois vous avouer qu'aucun secteur n'avait été épargné. En termes de classement, les enquêtés se sont exprimés tout haut et sans embâge, en disant qu'il y a des antivaleurs auprès des régies financières. Au lieu que l'argent pouvait bien renflouer les comptes du trésor public, et cela s'est fait au vu et au su des commerces des contemporains, et ne savent à quel sein se vouer. Après les régies financières, on parle de l'enseignement au niveau primaire et secondaire, et même à l'université. Il y a également le secteur de santé qui a été visé par les enquêteurs. Le détournement des projets alloués pour la province qui ne sont pas exécutés, et ce sont des cas frappants. Il y a aussi au niveau de la justice, il suffit que la personne présumée coupable, inculpée, arrêtée, demain paye le frais pour la liberté provisoire et directement on le voit demain, il est dehors. Ce sont des cas frappants.
Au Nord Kivu, Médecins sans frontières expriment des inquiétudes par rapport à l'augmentation des cas de choléra dans les territoires de Nyiragongo. Dans une déclaration rendue publique hier jeudi, cette ONG internationale a indiqué avoir enregistré du 26 novembre au 7 décembre au moins 256 patients au centre de traitement du choléra mis sur pied par ses équipes à Munigi, proche de Goma, et dont un tiers sont des enfants de moins de 5 ans. Le point avec Sifa Maguru.
Dans son communiqué, MSF indique que la situation humanitaire ne fait que se dégrader. Plus de 177 000 personnes, selon OCHA, fuyant la guerre, se sont ajoutées aux communautés locales dans des conditions désastreuses et à la merci des intempéries et des épidémies. Vu les manques de nourriture, d'abris, de latrines et douches, tous les ingrédients sont réunis pour une catastrophe sanitaire, prévient le coordonnateur des projets pour MSF RDC, Simplice Ngar-On, à travers ce communiqué. Cette organisation déplore en outre que, malgré son appel répété à la mobilisation, la réponse actuelle est loin d'être à la hauteur, alors que les déplacés sont à quelques kilomètres de la ville de Goma, où l'on compte nombreux acteurs humanitaires. Pour sa part, le responsable de la zone de santé de Nyiragongo reconnaît qu'il y a augmentation des cas de diarrhée qui sont pris en charge au centre de traitement du choléra à Munigi ainsi qu'au centre de santé de Kanyaruchinya. Ces responsables sanitaires indiquent avoir fait rapport à l'autorité. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, l'ONG internationale Hopewalks entendait espoir de marché qui s'occupe du traitement des enfants en pied-botte, exhorte les parents qui ont des enfants qui souffrent de cette malformation de les amener au centre pour handicapés AMCA. C'est pour leur traitement et prise en charge gratuit. Appel lancé hier jeudi par les coordonnateurs de cette ONG internationale. Pour Vincent Semou, les pieds-bottes se soignent mieux et rapidement à l'âge de 0 à 2 ans. Florence Kizalunga, reportage.
Grâce à l'appui de l'ONG Hopewalks, les enfants en pied-bot bénéficient actuellement des soins gratuits au centre pour handicapés AMCA de Kindu. Bernadette Biluta a un enfant de 3 ans qui vient de bénéficier de ses soins. Elle témoigne.
Mon fils était né avec les pieds bots. Maintenant aussi au centre pour handicapés, on l'a traité. Maintenant, mon fils commence à bien marcher. Je dis merci au docteur pour cette assistance.
Les coordonnateurs du counseling Hopewalks demandent aux autres parents d'amener leurs enfants à temps au centre AMCA pour qu'ils bénéficient de ces soins gratuits. Vincent Semou.
Ici, au centre pour handicapés AMCA de Kindu, effectivement, les pieds bots se soignent et le traitement est gratuit. De 0 à 2 ans, nous faisons la prise en charge gratuite. À plus de 2 ans, là, c'est la famille qui fait des arrangements avec la clinique pour traiter ce genre de cas. Alors, avec différentes sensibilisations, les mamans viennent avec leurs enfants et c'est comme ça que nous recevons vraiment vraiment beaucoup des mamans, telles que vous voyez ici à la clinique les jeudis. À toute la communauté, nous disons bien que c'est très important. Une fois on rencontre un cas de pied bot, n'hésitez pas de l'orienter dans les centres pour handicapés MK pour la prise en charge gratuite.
Signalons que c'est depuis 2011 que le centre pour handicapés MK s'occupe de ce type de soins. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Congo, Brazzaville, arrêté le 2 décembre dernier à Pointe-Noire, Destin Gavette, dirigeant du mouvement républicain, parti d'opposition, a été libéré hier jeudi. Par ailleurs, son parti, le MR, mène jusqu'au 19 décembre une campagne publique en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis, le cacao est un marché qui brasse des milliards d'euros. Pourtant, la grande majorité des 5 millions de producteurs, la plupart se trouvant en Afrique, n'arrivent pas à en vivre. Lors de la session extraordinaire de l'Organisation internationale du cacao qui s'est tenue à Montpellier hier jeudi, la création d'une bourse africaine du cacao a été évoquée comme une solution pour rééquilibrer le marché.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique, OSEP Équateur. Taylor Lompokompela fait l'état des lieux de la corruption dans la province de l'Équateur. C'est dans un entretien avec Paul Richard Malingela.
Monsieur Taylor Lompoko, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de la lutte contre la corruption dans la province de l'Équateur et des contraintes que vous avez pu rencontrer?
La lutte contre la corruption, c'est vraiment un processus. À notre niveau, nous avons des activités phares qui cadrent avec notre mission, notamment la sensibilisation, la moralisation des agents publics de l'État et autres personnes. Cela étant, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement parce qu'il va falloir d'abord commencer par la prévention, la sensibilisation, l'organisation des ateliers en vue de l'immersion des communs des mortels aux valeurs éthiques. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais aussi nous essayons un peu de travailler avec les organisations des structures de la société civile et nous pensons que tous ensemble, la main dans la main, nous pouvons travailler en synergie pour l'aboutissement heureux de résultats que nous sommes en train de nous assigner.
Depuis que l'OSEP est opérationnel ici à l'Équateur, quels sont les cas les plus patents que vous avez déjà constatés sur le terrain?
Nous avons décrié des antivaleurs, surtout lors de la passation des examens d'État. Et cela étant, nous avons eu à organiser un atelier d'immersion de valeurs éthiques en faveur des inspecteurs, des experts de l'enseignement. Au finish, ces derniers avaient signé avec nous des actes d'engagement éthique. Nous avons eu également à organiser au cours des parades avec la police nationale congolaise. Autrefois, les gens disent qu'il y a pas mal de tracasseries et consorts. Et nous avons eu à nous retrouver avec des officiers de la police nationale congolaise, ici dans le chef-lieu de la province de l'Équateur. On avait eu ensemble à échanger et nous avons tous convergé que ça valait la peine qu'on puisse pourchasser les antivaleurs ici dans la ville de Mbandaka. Donc,
nous apprenons que vous avez quand même mené aussi une étude dans la ville de Mbandaka. Oui. Quels sont les secteurs les plus touchés par cette gangrène qui est la corruption?
Il était question d'évaluer les taux de pénétration de la corruption dans les secteurs de la vie nationale. Et sincèrement, je dois vous avouer qu'aucun secteur n'avait été épargné. En termes de classement, les enquêtés se sont exprimés tout haut et sans embâge en disant qu'il y a des antivaleurs auprès des régies financières. Au lieu que l'argent pouvait bien raflouer les comptes du trésor public, et cela s'est fait au vu et au su des commerces des contemporains et ne savent à quel sein se vouer. Après les régies financières, on parle de l'enseignement au niveau primaire, secondaire et même à l'université. Il y a également le secteur de santé qui a été visé par les enquêteurs. Le détournement des projets alloués pour la province qui ne sont pas exécutés. Et ce sont des cas frappants. Il y a aussi au niveau de la justice, il suffit que la personne présumée coupable, inculpée, arrêtée, demain paye le frais pour la liberté provisoire et directement, on le voit demain, il est dehors. Ce sont des cas frappants.
Au regard de tout ce que vous venez de décrire, quelle est la stratégie phare que l'OSEP compte mettre en place pour changer la donne?
Au cours de cette occasion que vous nous donnez, nous voulons mettre à la disposition de nos auditeurs notre théorie phare, dite FAES, Made in OSEP. C'est vraiment un sigle. F, c'est la famille, E, c'est l'école, S, c'est la société. Donc nous disons que la meilleure façon de combattre les antivaleurs et la corruption, ces combats pouvaient bien commencer au niveau de nos familles. C'est-à-dire que si nous, parents, nous comprenons que la corruption, ce n'est pas une bonne chose et que nous amenons ces principes à notre enfant qui est en train de grandir, l'enfant comprendra que pour que je devienne demain utile à la société, je dois éviter et pourchasser tout ce qui est antivaleur et tout ce qui est corruption. Donc c'est un peu ça, cette théorie. Nous sommes prêts à organiser des activités, des ateliers à tous les niveaux, dans les églises, dans les écoles, pour amener les gens à la meilleure compréhension de cette théorie de FAES. Je crois que nous pourrons nous attendre à un meilleur résultat.
C'était l'invité de ce journal, le directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique, Taylor Lompokompela, a fait l'état des lieux de la corruption dans la province de l'Équateur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.